Bonjour et bienvenue à Escale 17-18 avec Fulgence Plat et au micro et Maurice Bolduc à la technique. En studio avec moi aussi Stéphane Baudry qui est là pour nous parler de Arcade par Moment Factory. Voilà, restez à l'écoute, c'est juste après la première pièce musicale. Je lui passe le micro, il va nous parler de ça long en large, fond en profondeur bien sûr. Et en deuxième partie d'émission, à 17h30, je vais recevoir Vanessa Tremblay. Saïkès Tremblay, qui est la directrice générale de Vivre Saint-Michel en Santé, concernant des projets dans le quartier Saint-Michel soutenus par le projet Impact Collectif PIC de Centraide. Vous savez, j'avais reçu la dernière fois la vice-présidente de projet Impact Collectif ici. C'est de gros projets avec de gros, avec de gros supports financiers d'ailleurs. Et donc, ça permet au quartier Saint-Michel de se. Voilà, de prendre son élan, sa manière, sans trop, sans aucune contradiction, sans aucune obligation. Alors, on va tout de suite en musique. Avec qui? Avec Jaime Nuviola, Rumba de la Buena. Ça ne peut faire que du bien danser, oui, voilà. De toute façon, c'est, on vous accompagne, c'est retour à la maison. C'est cassette 17-18. Alors, comme je disais en début d'émission, quand je plantais le décor, je dis bien, Stéphane Baudry est avec moi en studio pour nous parler de quoi ? Arcade. par Moment Factory. Bonjour Stéphane.
Bonjour Fulgence, ça va bien?
Oui, ça va bien, merci. Alors, pourquoi ce choix de ce sujet aujourd'hui?
Bien, c'est parce que progressivement, les travailleurs du centre-ville se réapproprient l'endroit.
Oui.
Et il y a des initiatives quand même très intéressantes qui ont été mises de l'avant pour favoriser ça, pour essayer de recréer, de réinventer un peu notre espace.
Oui.
Puis, pour amorcer un cycle positif de revitalisation du centre-ville, puis à mettre en place les conditions pour la relance durable du secteur, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain a donné vie à l'initiative « J'aime travailler au centre-ville ».
Oui, parce que c'était complètement mort durant les 2 ans.
Oui,
là, il
c'est
faut
ça.
Le dire.
Alors, ils ont conçu comme, ou en tout cas, ils ont contribué à concevoir 8 expériences créatives et sensorielles gratuitement, offertes gratuitement à Montréal. Et le projet Arcane fait partie de ces initiatives.
Oui.
Moment Factory, je pense qu'on le connaît bien, avec l'éclairage, entre autres, sur le pont Jacques-Cartier. Aussi pour les projets, tout ce qui est Lumina, Foresta Lumina et autres. Il y en a partout dans le monde, des projets comme celui-là, comme Aquaticook. Aussi même, je ne sais pas si tu es déjà allé voir, mais l'expérience lumineuse à la Basilique Notre-Dame à Montréal, Aura, où il y a tout un jeu de lumière et de musique. C'est vraiment un très, très,
c'est
très beau
aussi,
spectacle aussi.
Ça fait partie
aussi
de leurs œuvres.
Exactement. Ouais. Alors, ils ont été fondés en 2001. Mm-hmm. C'est vraiment un studio média qui se spécialise dans la vidéo, l'éclairage, l'architecture, le son, effets spéciaux pour des environnements immersifs. Et on est quand même un siège social qui est à Montréal, mais ils ont aussi des bureaux Paris, Tokyo, New York. Alors, c'est vraiment bien.
Oui, ce n'est plus une entreprise locale, c'est une entreprise internationale.
Oui, puis ils ont vraiment des projets de
tous
les
genres,
partout
dans le monde. De gros projets dans
le
monde, voilà. On leur dit bravo.
Oui, vraiment.
C'est une fierté québécoise, il faut le dire.
Vraiment, c'est un très beau joyau, disons, des compagnies qu'on a ici.
C'est ça.
L'arcade, c'est quoi? C'est une expérience multijoueur augmentée.
Oui.
Okay, c'est au Centre Eaton, au niveau 1. Juste au-dessus du niveau Sainte-Catherine. Ça veut dire quand on arrive, disons, de la rue Sainte-Catherine, on monte un niveau et on arrive, on voit la porte pour aller dans ce arcade.
Ah ouais.
C'est du 5 avril au 23 juin 2022.
OK.
C'est 6 jeux qu'on peut choisir.
C'est-à-dire que ça commence demain?
Le 5 avril.
Le 5 avril, ça a déjà commencé.
Jusqu'au 23 juin.
Ah, je vais aller voir ça. Merci.
C'est vraiment intéressant. On parle de 6 jeux immersifs qui sont projetés au sol. Ça peut aller de 2 à 8 joueurs. Puis c'est une durée de 2 à 5 minutes selon le jeu choisi.
Il n'y a pas des jeux où on peut jouer seul.
Non. C'est vraiment, le but, c'est vraiment de jouer ensemble.
D'accord.
Il n'y a pas de manette. Il n'y a pas de casque.
Okay.
C'est juste notre corps. On va sur le terrain de jeu et c'est comment on bouge qui fait jouer.
En fonction de nos mouvements personnels.
Ouais, exactement.
C'est intéressant, ça.
Oui, et c'est un rappel des salles d'arcade des années 80. Par exemple, un des jeux les plus connus quand on était jeune, c'était le jeu Pong, un peu genre tennis, où on promenait des petits rectangles et il y avait une balle qui se promenait puis il fallait bloquer pour pas que ça rentre dans notre but.
Ah oui.
Et on fait ça, où est-ce qu'on est? On peut même jouer jusqu'à 8, dans le cas du jeu Polygon.
Ah oui.
Et on a chacun notre petit but, et là, la balle, elle se promène comme ça dans le Polygon.
J'ai envie de tester, bon, qui va aller tester ça avec quoi?
C'est vraiment pour être capable d'avoir, pour reprendre le goût, de jouer avec les collègues, de faire des choses après le bureau,
oui,
ou l'heure du midi.
Oui, oui. Ou même un 5 à 7.
Oui, c'est ça.
Après, après la journée de travail, quoi.
C'est après 2 ans d'isolement, là, on a le goût quand même de voir les collègues, on a le goût de se remettre dans un environnement.
De s'éclater un peu, tout simplement. Voilà.
C'est ça.
Passer à autre chose.
Et c'est vraiment, j'ai vu les groupes, là, c'est vraiment intéressant.
Mais n'oublie pas, on est dans un semblant de normalité.
Oui.
Voilà, il faut se laisser aller un peu, quelque part.
Exactement. Voilà. Et ça, c'est une très belle occasion de le faire.
Très belle initiative.
Les gens sont vraiment intéressés. On voit vraiment là, qu'ils sont enjoués, c'est drôle et tout.
Et puis, bon, ben, est-ce qu'il faut être masqué? Il faut voir son masque ou bien on voit le sourire des gens, les gens en train de rigoler?
Présentement, les gens ont leur masque.
Oui.
On a appris hier que jusqu'au 14 mai, au moins, on va avoir le masque.
Oui, c'est ce que j'ai entendu, là, d'ailleurs, de la part du responsable intérimaire de la santé. Là.
Oui. Alors, donc, pour l'instant, c'est le masque. Mais c'est quand même très intéressant. Le
après,
monde
on
rit.
On
entend les gens rire, le masque ou non.
Ah, voilà. Non, les souris sont encore mieux que les rires. Les souris, c'est beaucoup plus. Ouais. Voilà.
Et comme je disais, c'est gratuit. Ça, c'est intéressant.
En plus, oui, c'est gratuit.
C'est du mardi au samedi de 11h à 18h et c'est des sessions de 30 minutes. Donc, tantôt, je disais qu'il y a des jeux qui durent de 2 à 5 minutes. Alors, on peut faire plusieurs jeux. Puis des fois, on peut être tous les joueurs, des fois, on peut se faire un petit tournoi, quelque chose, on a 30 minutes pour profiter.
Tu as déjà passé là-bas avec quelques membres de ton équipe, alors.
Je vais aller voir de quoi ça avait l'air, c'est sûr. J'ai vu, c'est vraiment intéressant.
Et?
Puisque c'est gratuit, les réservations en ligne sont complètes jusqu'au 23 juin.
Allez, je suis mal barré.
Par contre, quand je suis allé voir sur place, les gens qui étaient là, me disaient, mais parce que c'est gratuit, beaucoup de groupes ne se présentent pas.
Ah, ils réservent, mais ils ne viennent pas dans ce cas. Bon, ben,
alors, il dit, vous allez ici présenter. Avec des gens, des collègues, des amis,
oui.
Et vous allez sûrement avoir accès à une plage horaire
génial,
pour pouvoir le faire.
Génial, voilà. Merci de me réconforter un peu là. Sinon, j'allais dire, bon, ben, si c'est booké jusqu'au 23 juin, comme c'est gratuit. Alors que s'ils avaient payé, voilà, ils n'allaient pas jeter leur argent comme ça par la fenêtre, quoi.
Exactement. Si vous voulez avoir plus d'informations, il y a le site web de Moment Factory par rapport à cette initiative-là. C'est arcade.momentfactory, avec un Y à la fin, .com. Et ça, c'est pour vraiment cette initiative-là.
Oui.
Par contre, comme je disais tantôt, la Chambre de commerce a fait plusieurs projets. Il y a des projets que c'est vraiment seulement de regarder, comme il y a une grande murale pour le Canadien de Montréal.
Pour le plaisir des yeux.
Mais il y a quand même d'autres choses intéressantes. Entre autres, ils appellent ça les projets récréation. Ré, trait d'union, création. Et entre autres, moi, une chose qui est intéressante aussi, c'est le jardin holographique. C'est fait par le collectif Escargot.
Oui.
C'est un oasis de détente qui prend la forme d'un jardin urbain et que ça propose un espace qui est composé d'effets holographiques et de plantes aériennes.
OK.
Et ça, c'est à la tour CIBC. Fait que c'est 1155 boulevard René-Lévesque-Ouest.
Oui, la tour CIBC, oui, je vois.
Et c'était cet endroit-là. Et c'est vraiment, là, j'ai vu les images, là, c'est vraiment magnifique comme endroit.
Ouais.
Alors, il y a plein de places comme ça. Si vous voulez voir, parce qu'il y a des projets qui sont en cours, il y a des projets qui vont être réalisés bientôt. Il y a des projets qui sont dans plusieurs phases. Alors, disons, une phase a été faite, il y a d'autres phases après.
Une manière de, comment dirais-je, de rendre attractif le centre-ville de Montréal. Voilà, comme c'était avant la pandémie.
Exactement.
Voilà.
Alors, vous pouvez aller sur le site de la Chambre de commerce, c'est ccmm.ca. Vous choisissez l'onglet centre-ville et vous avez à gauche dans le menu programmation récréation. Et ça vous donne toutes les informations pour tous les projets qu'on fait dans le cadre de cette initiative-là.
De cette initiative, oui. Oh, génial. Génial. Wow. Multijoueur augmenté. Voilà. Et quelle est cette histoire du centre Eton niveau 1, là? Voilà, c'est de ça qu'on vient de parler, là. Alors, pour y aller.
Oui.
Oui.
Mais c'est le métro McGill, en transport en commun, pour le centre Eton, c'est vraiment la meilleure option.
Celui de la ligne verte.
Oui, exactement. Le centre Eton est au 705 Sainte-Catherine-Ouest, Montréal. Mais présentement, il y a plein de travaux autour. C'est difficile d'y aller. Il y a eu un temps où c'était difficile d'y aller comme piéton, de l'extérieur, je pense, sans passer par le métro. Mais c'est quand même pas un endroit qui est vraiment agréable à aller en voiture.
Même comme piéton, il faut faire des contours.
Il y a beaucoup de construction.
Il y a tellement de choses
pour
ça,
le REM.
Ça fait longtemps que ça dure, là.
Ouais.
Ça fait effectivement, je n'avais même pas pensé à ça. C'est les constructions, ils ont déjà tout mis. Voilà, waouh. OK. Mon collectif Escargot, le jardin holographique. Donc ça, c'est des choses à voir, c'est intéressant. Et pour conclure...
De belles initiatives ont été mises en place afin de réinventer nos habitudes et se réapproprier les espaces au centre-ville.
Oui.
Après 2 années difficiles, disons que le retour... au bureau ne doit pas être seulement un retour à la normale. Il doit être quelque chose de plus. Il y a une occasion maintenant pour faire quelque chose de plus.
Oui. Oui. D'ailleurs, de toutes les façons, je ne sais pas si les gens sont obligés de retourner tous au bureau maintenant. Non, ça dépend des compagnies. Je ne sais pas comment ça se passe au niveau de ton équipe. Tu donnes 2-3 jours en télétravail et les gens reviennent ou bien quelque chose comme ça. C'est facultatif ou bien comment ça se passe?
Dans notre cas, c'est à la discrétion des équipes. Les équipes s'organisent avec une charte
et
décident entre eux comment ils vont faire ça.
Oui.
Alors, il y a des équipes aussi qui sont disposées à plusieurs endroits au Canada ou des fois à travers le monde. Alors, il faut que chaque équipe ou chaque entreprise voit comment eux vont faire le retour. Je pense qu'au début, c'est difficile d'être à distance. Maintenant, les gens apprécient un peu certaines choses qu'ils avaient à distance. Alors là, c'est de faire comme le entre-deux pour garder la cohésion à l'intérieur, le sentiment d'appartenance à une entreprise, tout en profitant quand même de ce que le travail hybride peut offrir.
C'est ça. Au fait, de toutes les façons, il faut le dire, hein, comme de toutes les façons, avec le manque de, comment, Qu'est-ce que je voulais dire? Le manque de la pénurie de main-d'œuvre, c'est les chercheurs d'emploi qui ont le bon bout du bâton. Hein. Oui. Voilà, la plupart, oui, c'est ça, on n'y peut rien. C'est comme ça, avant, c'était les employeurs qui avaient le bon bout du bâton dans tous les domaines confondus. Mm-hmm. Et je pense bien que les employeurs doivent être un peu flexibles pour comprendre un peu, parce que les gens, ils se disent, bon, s'il ne veut pas mes conditions, moi, je pars ailleurs.
De toute façon, quand les gens sont bien, en général, le travail va être bon aussi. Oh, je veux dire, il faut que l'environnement soit idéal.
Et ça, c'est ce que beaucoup de gestionnaires ne comprennent pas. Merci beaucoup, Stéphane.
Merci, Jean.
Bonne semaine, bon reste de semaine. Et puis, merci. On se revoit la semaine prochaine.
Oui.
À bientôt.
Bientôt.
Merci. Hot Castle, Lucky Star. Ok, avant de passer à la prochaine, à mon invité qui sera là à 17h, pas sera là, on va la recevoir au bout du fil, Vanessa Tremblay, directrice générale de Vivre Saint-Michel en Santé, qui va nous parler de la situation là-bas, dans le quartier, assurer la sécurité alimentaire, dynamiser la vie du quartier, encourager la persévérance scolaire. J'ai quelques petits sujets, je vais parler du livre Disque de Chloé Sainte-Marie de Jean Morissette, qui va paraître bientôt là en 2022, en automne. Le titre, c'est Maudit silence. qui a pris naissance avec la rencontre de la chanteuse Chloé Sainte-Marie et du géographe rêveur Jean Morissette, à partir de la grande rivière de Canada et de l'île verte. Un saut en Patagonie, un clin d'œil à la terre elle-même et un arrêt viscéral en Haïti. Donc, là, c'est un livre-disque hein, qui va rassembler 18 poèmes issus de 3 Amériques à travers 13 langues autochtones, latines et créoles. Voilà, porté par un texte initial de Joséphine Bacon, bien sûr, son amie de toujours. Et c'est une œuvre musicale qui fait appel à des poèmes de Nancy Houston, James Noel, Jack Kerouac, Mathias Carvalho, Jean Morissette, etc., etc. Et puis, bon, ben, sous la mise en musique du compositeur Yves Desrosiers, la réalisation de François Richard, Winigo Alexandre Désilé, Clément Frédéric et autres qui ont participé à ça. Ça leur a pris presque 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, dans la voix métissée de Chloé, se faisant l'instrument du renversement des 3 Amériques. Voilà, c'est ça. Et afin de rompre le silence qui perdure jusqu'à ce jour, ce silence qu'on a vécu durant ces 2 ans d'ailleurs, et puis le livre d'art va accompagner l'album et rédigé, illustré par l'auteur Jean-Morissette à partir d'une 100aine de documents cartographiques et iconographiques et de montages photographiques qui expriment la vision coloniale des 3 Amériques et la grande partie des peuples, des premiers peuples, des peuples autochtones. Voilà. Voilà, c'est intéressant. On va écouter, quand j'aurai fini, on va écouter une de ces pièces de cet album, de ce maudit silence. Et je pense bien que ça va faire tabac aussi. 18 poèmes, 18 pièces musicales, avec la voix de Chloé, bien sûr, l'instrument. Il y a beaucoup d'instruments là-dedans. Fort de la mise en scène de Philippe Cyr, J'aime Hydro, voilà, et de la jeune metteur en scène autochtone Émilie Monnet. Le spectacle fera appel à une artiste des Nations Premières pour assurer la narration des enchaînements des chants multilingues de Chloé. Le livre-disque, comme je le dis, voilà, ce serait ce audiogramme et chez les éditions de l'Hexagone à l'automne 2022. Ce serait bientôt là. Voilà. Et puis il y a quelqu'un que j'apprécie beaucoup, un pianiste, un helvético montréalais, c'est un Suisse, un montréalais d'origine suisse qui est installé ici depuis des décennies. Il est d'ailleurs, il sera en tournée bientôt à Montréal, au Québec, et en Europe. Voilà, il sera Félix Tussi avec son ami tromboniste américain Ray Anderson. C'est, voilà, j'ai eu la chance de les voir quelques fois ensemble, mais Félix est souvent un piano solo tous les jeudis à 18h au Grand Lionel qui est situé au 3234 rue Beaubien Est. Voilà, je l'ai connu à l'époque quand le bar de jazz était sur Saint-Hubert, le Gains Bar. C'est là comme ça que j'ai connu Félix. Voilà, il était là presque tous les jeudis aussi. Il continue la tradition. Il vit de sa musique. C'est un grand pianiste. Félix Tussi. Il vient, comme il dit toujours, je viens de la Suisse profonde, je viens pas de Zurich, je viens pas de Bâle, je viens pas de Genève, je viens de la Suisse profonde, un petit village quoi. Alors, sera Félix et Ray Anderson seront le 27 mai, oui, le 27 mai, 10-11, Montréal 18h, samedi 28, 10-11 aussi à 18h, et puis voilà, c'est parti tout de suite là, en Suisse, Dand, Big Band, Culture Off, la maison de la culture, bien sûr, Schlofkönig en Suisse, le 3 juin. Ça va tellement vite, samedi 4 juin, matinée concert, Winterthur, c'est toujours en Suisse. Et puis le 5 juin aussi, à Glarus, en Suisse aussi. Et tout le reste comme ça, workshop, ils vont faire workshop en dos. Les deux, c'est deux complices, un tromboniste et pianiste, ça fait longtemps qu'ils se connaissent, ça fait longtemps qu'ils font de ce duo. Et Félix, il est tellement polyvalent. Moi, je l'appelle. Il joue avec tellement de groupes. Il a tellement de groupes sous son chapeau. Allez, allez pour ceux qui veulent le découvrir, déplacez-vous au 10-11, le 27 mai. Vous allez voir Félix au piano. Voilà, on va en musique. On termine avec Chloé Sainte-Marie, une de ses nouvelles pièces. Je ne sais pas comment prononcer ce titre-là. C'est Tchèque et des. Voilà. Chiki di 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 di, merci beaucoup. Chiki di 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 di,
parle pas chiac, je parle crétac. Je parle pas micmac, je parle whisky jack. Je parle pas wobo, je parle wabash. Je parle pas chinook, je parle chouk chouk. Je parle pas sac à koumi, je parle sac à
C'était Chloé Sainte-Marie, Chiki, Didi, Didi, Didi. Voilà, restez à l'écoute. Après la petite pause publicitaire, la première pièce musicale, je vais recevoir Vanessa Tremblay, directrice générale de Vivre Saint-Michel en santé. Voilà, restez à l'écoute. A tout de suite, après la première pièce musicale, c'est l'invité qui sera avec moi. Merci.
Vous écoutez Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
City skies feeling dark tonight. We're back to back with our heads down. Just look at me, give me more tonight. Just give me more of your love now. Let's set fire to the lonely night. You're beautiful when you look at me. Let's give love another life. Cause you'll be safe in these arms of mine. Just call my name. I would take the pain, take it all away, and give it some kind of meaning. Let's let go, let it be the start. You know I'm feeling the same thing. Let's let go of our broken hearts. Cause you'll be safe.
It's gonna break me, love. I'm gonna make my way to you. Anyway, it's gonna take me, love. I run to you. I run to you.
Ça, c'est qui? Combien vous écoutez? Oui, allez, à Michel, Run to You. Ouais, l'invité déjà au bout du fil, Vanessa Sexe Tremblay, directrice générale de Vivre Saint-Michel en Santé. On va parler de tout, assurer la sécurité alimentaire, dynamiser la vie de partenaires de quartier, encourager la persévérance scolaire, faciliter l'accès à un logement convenable. Elle est mieux placée que moi pour parler de tout ça. Bonjour, Vanessa Sexe Tremblay.
Le menu est long.
Ouais. Alors, vous allez essayer de nous faire vivre un peu ce que vous faites à la tête de vivre Saint-Michel en santé. Et puis, voilà. Et puis, bon, qu'est-ce que cet organisme apporte à ce quartier? Et, je sais pas, avec la complicité, bien sûr, de projet Impact Collectif de Centraide.
Oui, exact.
Voilà.
Alors, ben oui, on a une table de quartier, en fait, sur l'île de Montréal. Ça, c'est vraiment une bibite montréalaise. Sur la
J'adore la bibite montréalaise.
Bibite montréalaise. En fait, il y en a 32 sur l'île de Montréal. Puis notre mission, c'est d'améliorer les conditions de vie d'un quartier.
Oui.
Donc, des citoyens au sein d'un quartier, des citoyens, des citoyennes. C'est toute une mission.
Oui.
Et à Saint-Michel, ben, on part de loin parce que les besoins sont assez élevés. Donc, on a plein de beaux projets, mais pour mettre ces projets en œuvre, en fait, on les réfléchit toujours avec les citoyennes et les citoyens, donc avec la population micheloise.
Oui.
Eux, c'est la boucle. C'est important qu'ils soient quelque part dans la boucle parce que c'est eux qui connaissent le mieux leur quartier, qui le marchent, qui le fréquentent, qui le parcourent. Donc, on réfléchit avec eux sur comment on peut améliorer les choses dans leur quartier.
Oui.
Et puis, on bénéficie en effet du projet d'impact collectif. Donc, on est un des 5 quartiers intensifs sur l'île de Montréal qui a bénéficié de ce projet, d'un apport quand même assez substantiel.
Oui.
Un demi-million par année pour mettre en œuvre des projets. Puis ça m'amène au sujet dont vous parliez avant. Il y en a en sécurité alimentaire, il y en a en persévérance scolaire, il y en a pour améliorer les conditions de logement. Donc c'est assez tentaculaire.
Oh oui, oui, c'est très tentaculaire, très diversifié. Parce que de toutes les façons, et le comme vous l'avez dit, à ce jour, le PIC a investi plus de 1,8 million dans le quartier Saint-Michel pour des projets qui visent à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale depuis 2016.
Exact.
Comment vous gérez cet argent, Vanessa?
Alors en fait, la table de quartier, on est quelque part l'opérateur, c'est-à-dire ou le garant, c'est-à-dire qu'on est vraiment souvent, c'est pas nous qui menons directement les projets parce qu'on n'est pas les mieux placés.
Oui.
Les mieux placés, c'est vraiment les organismes communautaires, les écoles par exemple, dans le cas de la persévérance scolaire. Donc c'est vraiment les acteurs qui sont sur le terrain, directement en contact avec les bénéficiaires.
Oui.
Comme table de quartier, par contre, on s'assure que ça soit cohérent, que les gens travaillent ensemble, qu'il y a l'aspect collectif, parce que pour avoir un impact accru,
oui,
il faut qu'on puisse travailler en complémentarité et ensemble autour de ces questions-là.
Oui.
C'est pour ça qu'on les assied en fait ensemble. Si jamais il y a une très très belle vidéo dont la voix, c'est Dany Laferrière qui nous a prêté sa voix, pour expliquer un peu comment fonctionnent les tables de quartier, donc... je pourrais vous envoyer le lien par après si jamais.
Oui.
Et donc c'est ça. L'idée, c'est vraiment d'asseoir les gens ensemble et de voir quel est l'organisme ou quelle est la meilleure personne pour opérer ce changement-là, pour mettre en œuvre le projet. Puis je peux vous donner des exemples précis, par exemple.
Oui.
On le sait que à Saint-Michel, un des problèmes récurrents qu'on a, c'est le logement, le manque de logements abordables ou l'insalubrité des logements, par exemple. Donc, on a au sein de notre quartier un bureau info-logement avec des personnes. On arrivait à financer une ressource humaine directement via ce projet d'impact collectif pour travailler sur cette question-là, donc pour travailler avec l'arrondissement, avec les inspecteurs dans le quartier, pour voir comment, et les locataires bien sûr, parce que c'est eux qui sont visés prioritairement pour que leurs conditions se voient améliorées,
oui,
pour voir comment on pouvait améliorer cette mécanique-là, comment on pourrait donner des ateliers, par exemple, pour leur faire connaître leurs droits, parce que souvent les personnes qui sont nouvellement arrivées, ben, elles connaissent pas les droits, puis elles osent pas revendiquer leurs droits.
Oui, mais elles peuvent pas revendiquer.
Pour les accompagner.
C'est ça, si elles ne connaissent pas, comment elles peuvent revendiquer?
Exact.
Voilà.
C'est important de se mettre à leur niveau, de leur expliquer aussi dans leur langue, d'avoir une pluralité d'acteurs qui puissent leur expliquer, de traduire le contenu et de les accompagner. On a aussi un autre projet, par exemple, en persévérance scolaire,
oui,
pour les élèves de l'école Louis-Joseph Papineau, qui est en agriculture urbaine. Donc depuis 2 ans, on a chaque année une cohorte de 25 élèves qui peut s'inscrire dans le cours O, qui est environnement et agriculture urbaine.
J'ai adoré quand j'ai vu les photos, les vidéos, là, je me suis dit, waouh, quel beau projet!
Oui, tellement, parce que c'est l'occasion de les sensibiliser sur plein d'enjeux, sur les saines habitudes de vie. Puis quand un enfant retourne à la maison, ou un jeune retourne à la maison, puis dit, regarde maman, j'ai une carotte, puis elle goûte pas la même chose que la carotte qu'on achète au supermarché.
Ah non, c'est différent, c'est pas le même goût. Hein.
Exactement. Ça permet par la bande de sensibiliser les parents, les petits frères, toute la communauté. Donc ça a vraiment un impact. Et puis, grâce justement au projet d'impact collectif, ben, on a réussi à construire une serre 3 saisons qui est vraiment adjacente à l'école. Donc c'est aussi l'occasion pour les élèves d'aller mettre la main dans la terre, d'aller découvrir comment les légumes y poussent, de voir le cycle des récoltes. Donc c'est vraiment enrichissant pour eux. Et
oui,
puis ça peut potentiellement les mener, parce que l'idée, justement, c'est un cours qui a été validé par le ministère de l'Éducation. Et l'idée, c'est de créer une filière pour la diplomation. Si la graine qu'on a plantée prend racine, puis que c'est vraiment ça qu'ils aimeraient faire, ben plus tard ils peuvent directement accéder, grâce à l'école d'horticulture, puis à un cégep avec qui on est en discussion, à une profession, puis à une filière diplômante, en fait.
Oui. Pourquoi est-ce que c'est depuis 2020 que cette histoire de programme d'agriculture urbaine a été mise sur pied?
C'est grâce justement au projet d'impact collectif, parce que construire une serre, bah, ça demande des sous.
Oui.
Et c'est notamment le levier, le projet d'impact collectif, donc qui est opéré par Centraide, c'est notamment le levier qui nous a permis de rêver ce genre de projet, en fait, et de mettre en œuvre ce genre de projet.
Oui.
Et en plus, ça fait des petits, c'est ça qui est la beauté de la chose, c'est
oui,
que on s'est rendu compte qu'on avait maintenant besoin d'une serre 4 saisons, parce que les élèves, ils sont surtout là l'hiver, en fait, l'automne, l'hiver et le début du printemps.
Oui.
Mais que la serre 3 saisons qui n'est pas chauffée, qui est là à l'heure actuelle, n'est pas suffisante. Donc, on a gagné au budget participatif de la ville de Montréal pour construire une serre 4 saisons.
On leur dit merci.
Oui, exact. Mmh. Bah, c'est aussi une reconnaissance pour la valeur du projet, puis tout le travail que font les groupes communautaires sur le terrain.
Oui. Alors, on va faire une petite pause musicale et puis on va revenir pour parler un peu des leçons qui ont été tirées de la phase 1 et puis vos souhaits pour la phase 2.
Parfait.
À tout à l'heure.
À tantôt.
Yeah.
Elisapi Nawatara, Nawatara, c'est bien ça. Ouais, Elisapi, mon invité est toujours avec moi, Vanessa Saïkes-Tremblay, directrice générale de Vive Saint-Michel en santé. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aller sur le site, il y a un site là-bas, Saint-Michel en santé, en un seul mot, sans accent, .org, ou bien aller simplement sur le site aussi du PIC, voilà, PIC.centraide.org, ou bien vivre-saint-michel.org. Voilà, vous allez avoir toutes les informations là-bas. Mais comme on a la directrice avec nous, on va avoir aussi toutes les infos ici maintenant, en direct. Alors, Vanessa.
Dites-moi.
Voilà. Concernant le problème de logement, pourquoi est-ce que vous vous êtes opposé au projet de 105 logements privés sur le terrain de l'ancienne épicerie Esposito?
En fait, je ne sais pas si on peut parler d'opposition. On n'est pas contre la densification. Il faut densifier des quartiers. On veut créer des milieux de vie agréables pour les personnes.
Oui.
La problématique qui se pose dans ce cas-ci, c'est que ça ne correspond pas aux besoins de la population qui est déjà sur place, donc à la population micheloise.
Oui.
Parce que c'est 105 logements qui sont entre des 1,5 et des 3,5.
Oui.
Alors que les personnes qui veulent s'installer à Saint-Michel, c'est souvent des familles avec
nombreuses.
Des enfants.
Mmh.
Et c'est pas sûr non plus qu'ils aient la capacité d'acheter sans avoir un soutien financier quelconque, un apport financier du gouvernement. Donc, on était plus dans l'espoir d'avoir des logements, en fait, abordables.
Oui.
Des logements sociaux dans un monde idéal, mais on sait à quel point c'est difficile.
Oui.
Puis l'autre enjeu sur lequel on essayait de travailler, c'est que il y avait avant un supermarché à prix raisonnable, en fait, qui était au rez-de-chaussée.
Oui.
Et avec le départ, avec la fermeture de ce supermarché qui, en fait, a conduit à l'achat de la bâtisse par un promoteur immobilier,
mm-hmm.
Ben ça crée quelque part un désert alimentaire. C'est pas un désert alimentaire dans le sens où il reste que dans le petit Maghreb, dans la portion Jean Talon entre Pineuf et Boulevard Saint-Michel, il y a des épiceries, il y a des petits magasins, des fruiteries, des boucheries et des dépanneurs qui ont quand même une diversité de produits.
Mm-hmm.
Mais c'est pas la même chose que d'avoir une épicerie à...
C'est différent, ça fournit pas la même chose que l'épicerie. Voilà.
Certaines personnes doivent se déplacer.
Oui.
Et que pour des populations qui sont parfois fragilisées, bah, c'est pas facile de devoir prendre l'autobus pour aller faire les courses. Ça devient une contrainte additionnelle.
Oui, oui, oui.
Donc, c'est tout ça qui venait se rajouter. Donc, on espérait, on avait contacté le promoteur immobilier, justement, pour lui dire si vous pouviez garder une vocation alimentaire dans votre bâtiment, tout en faisant, bien sûr, des logements dessus. On a conscience qu'un promoteur immobilier, c'est ça son objectif.
Oui.
On serait prêt à vous aider, par exemple, à rentrer en contact avec des bannières pour voir s'il y a une bannière qui serait intéressée à se rencontrer là.
Oui.
Et surtout, on espérait que ce soit des logements plus accessibles pour les familles.
Pour les familles de ce quartier-là, de Saint-Michel.
Exactement.
Mais est-ce qu'il y a des pourparlers qui sont toujours en cours ou bien, bon, tout est silence radio maintenant, tout est mis au stand-by?
Il y a eu une consultation, on a salué le fait qu'il y ait une consultation le 14 avril qui a été mise sur pied.
Oui.
Là, on est un peu en attente de voir, en fait, c'est plus entre les mains des élus et des fonctionnaires de l'arrondissement.
Oui.
Je pense qu'ils nous ont entendus. Je pense qu'ils ont entendu les citoyennes et les citoyens aussi qui sont venus manifester un peu leur insatisfaction.
C'est normal, c'est normal.
Et c'est normal, comme vous le dites, exact. Donc on attend de voir en fait ce qui va advenir de cela.
Mais lui, le promoteur, par exemple, je ne suis pas en train de le blâmer, mais il a oublié qu'il n'allait pas construire son nouvel immeuble là dans le plateau, ou bien quelque part sur le plateau, ou bien quelque part d'autre, parce qu'il allait dans Saint-Michel, que là-bas il y a des familles nombreuses, et c'est par exemple quand on dit environ 30% de la population de Saint-Michel vit sous le seuil du faible revenu.
Exact. On est vraiment dans un quartier, en fait, un quartier qu'on appelle souvent un quartier mosaïque et tremplin. Donc les gens, c'est souvent là qu'ils ont la possibilité de s'installer, plus que justement les loyers sont un peu plus abordables.
Oui.
Mais c'est pas tout à fait la vision des promoteurs immobiliers, même si il faut pas tous les mettre dans le même panier.
Oui.
Mais c'est sûr que dans ce cas-là, quand on a vu le projet, ben justement, on était surpris. On s'est dit, OK, il y a un décalage avec les besoins de la population locale et la proposition qui est mise sur la table à l'heure actuelle.
D'où
la raison pour laquelle on est monté un peu en créneau, puis qu'on a signalé. Notre...
Vous l'avez très bien fait d'ailleurs. J'ai pas parlé de jeudi refus parce que je voulais avoir votre explication personnelle. Voilà, c'est là où j'ai parlé. Non, on peut pas parler de refus ou bien d'opposition. Et quand je vois le chiffre, 3019 demandeurs en attente d'un logement social dans l'arrondissement, c'est beaucoup quand même. Il aurait dû prendre connaissance de tout ça avant de se lancer dans son projet, le promoteur.
Oui, et c'est là que c'est parfois important de pouvoir s'asseoir avec eux autour de la même table.
Parce oui.
Que, en tout cas, moi, je prône cette approche-là, donc c'est pour ça que toutes les approches sont nécessaires.
Oh, oui.
Donc, il faut aussi défendre les droits, c'est certain. Mais en tant que table de quartier, on a l'avantage de pouvoir parfois s'asseoir avec eux, mais dans ce cas-là, ça n'a pas été possible malheureusement. Mais je sais que dans le quartier Centre-Sud, par exemple, ils ont mis en place une concertation entre les promoteurs immobiliers
oui.
et les groupes communautaires pour justement que les promoteurs immobiliers soient aussi sensibilisés à ces enjeux-là. Eux, ils ont la pression de répondre à leurs besoins des actionnaires.
Oui.
Et il y a des promoteurs, on le voit dans Parc Extension, il y a un promoteur immobilier qui s'est mis à disposition de la communauté, qui est issu en fait d'une communauté vignerable, qui a décidé de partir sa propre entreprise. Donc il faut suivre ce genre d'exemple.
Ah là, ça change les donnes.
Exact, ça change la donne.
Oui.
Et on espère, on veut des promoteurs immobiliers quelque part qui ont une fibre sociale.
Oui.
Pour justement comprendre, comme vous l'avez si bien dit, les préoccupations et les besoins des quartiers.
Oui, oui. Alors, on revient sur les leçons tirées de la phase 1 et ensuite, vos souhaits pour la phase 2.
Oui, alors, les leçons, en fait, c'est ça qui est intéressant avec le projet d'impact collectif, c'est qu'on a la marge de manœuvre pour justement essayer des choses. Donc, on peut se permettre sur un horizon de 5 ans de faire des essais-erreurs. Et comme il y a aussi un processus d'évaluation continue, bah, ça nous permet de tirer des apprentissages. Donc, parmi les apprentissages qu'on a eus, c'est que ça prend des leviers financiers. On a, par exemple, un projet de transformation de la carrière Francon. Il faut savoir qu'à Saint-Michel, 42% du territoire est couvert par des carrières. Donc, il y a eu la carrière Miron qui a été transformée dans un parc Frédéric Bach, qui est en train de devenir un des joyaux, en fait, de Montréal. Il reste qu'il y a la carrière Francon, par exemple, qui, à l'heure actuelle, est considérée comme le dépotoir à neige, puisque 40% de la neige de Montréal s'en va dans la carrière Francon.
C'est là-bas qu'ils vont déposer 40% de la neige de Montréal.
On pourrait faire toute une autre émission là-dessus, si vous voulez.
Oh là, il va falloir que je vous réinvite.
Exact. Et donc, les citoyens, c'est sûr qu'ils voient cette carrière de manière très différente. Ça pourrait devenir un cœur du quartier. Et puis, plutôt que diviser les quartiers, parce qu'il faut savoir que les élèves qui habitent du côté de Pinneuf, dont leur école de quartier, c'est l'école Louis-Joseph Papineau, doit faire tout le tour de la carrière. Alors que si on avait une passerelle, et c'est une des propositions qu'on a mis de l'avant, si on avait une passerelle, ben, ils pourraient y aller à vélo en moins de 10-15 minutes, alors que là, ça leur prend plus d'une heure pour contourner avec différents bus la carrière Francon.
Oui.
Donc, tout ça pour dire qu'un des apprentissages qu'on a tiré, c'est qu'il y a souvent des enjeux d'infrastructure, et pour des enjeux d'infrastructure, ben, ça prend des leviers financiers au-delà du projet d'impact collectif.
Oui.
Donc, il faut qu'on puisse aller voir à d'autres paliers de gouvernement, au provincial, au fédéral, parce que c'est là que les coffres sont mieux garnis qu'au niveau des arrondissements et de la ville-centre. Donc, ça prend ces leviers financiers et ça prend, en fait, des partenariats.
Oui.
Donc, ça, c'est un des autres apprentissages du PIC, c'est qu'il faut arrêter de travailler en silo à certains niveaux de paliers. Il faut décloisonner les choses.
Oui.
Et aussi l'inter-institution. On l'a vu avec le projet le cours à l'école Louis-Joseph Papineau, où c'est c'était vraiment une collaboration entre des groupes communautaires, l'école, en fait, donc le centre de services scolaires de Montréal, et aussi l'arrondissement qui nous a facilité ce travail.
Ouais, pour,
quand on arrive à s'asseoir ensemble autour de la même table, on peut aller beaucoup plus loin, en fait.
Oui, pour la dernière minute qui nous reste, j'aime bien ça, ce programme, la baptiser haut, là, dans le cadre de cultiver la conscience environnementale chez les jeunes. Ça, c'est très important. Voilà, peut-être même qu'il y a d'autres qui vont dire, bon, ben moi, je suis fatigué de la ville, et après mes études, je vais devenir fermier quelque part là-bas, en dehors de la ville. Voilà, on ne sait jamais. Alors, pour les dernières 40 secondes qui nous restent...
Les souhaits, est-ce que je peux...
Oh, oui, allez-y, je vous laisse le micro.
en fait, un de nos plus grands souhaits, c'est ça vient pas de moi, mais c'est que ce soit que les bailleurs de fonds viennent dans le quartier voir quels sont les besoins, voir quels sont les projets que les groupes ont envie de porter et s'adaptent et trouvent les moyens quelque part pour tirer sur les bonnes ficelles pour trouver le financement, plutôt que ce soit les groupes communautaires qui aient à rentrer dans des appels de projets et dans des carcans. Donc ça, c'est un des souhaits qu'on ait, puis qu'on continue aussi de décloisonner justement, de pas travailler en silo, de travailler sur tout cet aspect intergouvernemental et qu'on puisse faire des changements systémiques aussi. C'est-à-dire, dans le logement, on voit qu'il y a des problèmes récurrents qui ne sont pas propres seulement à Saint-Michel, mais qui sont propres à toute l'île de Montréal.
Oui, à d'autres quartiers aussi.
C'est ça, de sensibiliser les bonnes personnes et de changer les politiques publiques pour que ces problèmes ne soient plus récurrents et systémiques, puis pour qu'il y ait des réels changements.
Merci beaucoup, Vanessa Sarkis-Tremblay, directrice générale de Vivre Saint-Michel. Comme je l'ai dit, là, je vous le promets, je vais vous le réinviter parce que vous avez tellement à dire.
Absolument, avec grand plaisir. Merci à vous de nous avoir.
C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée à vous. À bientôt.
Au revoir.
T'es toute cassée, regarde-toi comme incrusté dans papier peint. Les motifs sont des croix gammées. Tous les aviateurs incertains. Le magnétoscope est sur pause. Plus d'indiennes au Colorado. Et rien d'autre à faire. Ai-je fait des nœuds dans tes cheveux décolorés? Tu me déshabilles et je me débats. On fait semblant de se faire des bleus. Je plonge mes doigts dans tes yeux roses. T'es pas qu'un astre, qu'est-ce que tu crois? Le plafond ressemble à la surface. L'enfant dort sous les nénuphars. Il n'y a plus de fenêtres que des mirages. On est nu, fait comme des rats. T'es toute cassée.
Louis-Noël Bobé avec la voix et la guitare, avec la complicité de Vanille Bourbon Colorado. Merci à Stéphane Baudry et à notre invité Vanessa Saïkes-Tremblay, directrice générale de Vive Saint-Michel en santé. Merci à toi Maurice, on se retrouve demain. Et merci à tous nos fidèles auditeurs, auditrices. Voilà, et on se retrouve demain. N'oubliez pas, toutes les émissions de Canal M sont sur toutes les plateformes numériques. Y compris Escale 17-18 bien sûr. Voilà, sur ce, je vous dis, prenez soin de vos minutes et... Ciao.